Vous êtes très nombreux à avoir réagi positivement à mes propos relatifs aux doutes systématiques de Descartes. Alors je vous propose de poursuivre la conversation du lundi encore autour du doute systématique ce lundi et lundi prochain. Alors suivez le guide. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation du lundi, la conversation numéro 23, toujours consacrée aux doutes systématiques. Vous imaginez bien que sortir de plusieurs siècles de cartésianisme, ça ne se fait pas en l'espace d'une seule vidéo. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai l'intention d'enregistrer encore cette vidéo d'aujourd'hui et la vidéo de la semaine prochaine pour faire un tour plus complet de ce que ça nécessite pour sortir de nos conditionnements et pour entrer dans une liberté beaucoup plus grande, cette liberté qui est symbolisée non seulement par l'océan qui se trouve derrière moi, liberté qui est symbolisée aussi par le fait que j'enregistre cette vidéo en vacances et sur une plage naturiste comme vous pouvez le deviner. Et ça me paraissait vraiment important qu'on continue notre conversation à propos de ce que Descartes nous a transmis finalement et à propos aussi de tout ce que nous pouvons faire finalement de cette invitation de Descartes à non seulement douter systématiquement de tout, ça c'était une des choses que j'ai développées la semaine dernière, mais aussi reconstruire notre conception du réel dans toute sa complexité après avoir fait cette démarche d'analyse, c'est-à-dire cette démarche qui consiste à découper le réel dans ses plus petites parties, d'analyser le fonctionnement de chacune de ces parties, mais de ne pas oublier surtout de reconstruire la réalité, le système complexe de la réalité en reprenant chacune des parties dont on a compris les fonctionnements individuels pour avoir une vue d'ensemble. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est un des éléments qui nous manque beaucoup, y compris lorsque nous recevons de l'information, mais ça l'information j'en parlerai surtout dans la prochaine vidéo, mais je pense que ce qui nous empêche de comprendre le fonctionnement du monde, ce qui nous empêche de comprendre que le monde est en train de s'organiser pour nous appauvrir de plus en plus, pour nous mettre de plus en plus dans une servitude et en plus avec notre complicité et parfois notre demande, c'est que tout simplement il nous manque une vision d'ensemble, il nous manque une vision globale de ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Mais ça, j'y reviendrai la prochaine fois et j'aimerais dans cette vidéo rendre hommage à trois personnages, à trois personnes, à trois personnalités, à trois penseurs qui, pour moi, ont été absolument déterminants dans mon parcours intellectuel, dans mon parcours de vie. Le premier personnage auquel je veux faire hommage, c'est Edgar Morin. Edgar Morin, que la plupart d'entre vous ne connaissent peut-être pas, qui pourtant est probablement un des plus grands, sinon le plus grand penseur français contemporain, encore en vie. Figurez-vous qu'Edgar Morin est né en 1921, donc si vous faites le calcul, il a plus de 98 ans. Edgar Morin continue à écrire en moyenne 4 livres par an, il continue à donner des conférences, il continue à participer à des émissions de radio et de télévision et très franchement c'est un homme qui rien que pour ça m'inspire beaucoup parce que j'espère que comme lui je serai encore capable de vous tenir des discours, de vous partager le fruit de mes découvertes à l'âge de 98 ans. J'en ai 58 donc j'ai encore 40 ans de travail devant moi et ça m'enthousiasme vraiment énormément. Donc, qu'est-ce que j'ai découvert grâce à Edgar Morin en 1984, au moment où j'étais en train de faire mon doctorat en physique quantique? Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que Edgar Morin s'était donné comme mission de donner une réponse, de répondre en fait à René Descartes en écrivant lui-même l'œuvre majeure de la vie d'Edgar Morin, je dirais, et son œuvre majeure s'intitule « La méthode ». Je vous rappelle que le principal ouvrage de Descartes, c'était le discours de la méthode, et donc ce n'est pas par hasard, et d'ailleurs Edgar Morin le dit lui-même, ce n'est pas par hasard que Edgar Morin a décidé d'intituler son œuvre majeure, La méthode, en 5 énormes volumes. Et c'est véritablement une réponse à Descartes pour dire à Descartes, eh bien, mon cher René, tu aurais dû aller beaucoup plus loin, tu aurais dû aller jusqu'à la transdisciplinarité, c'est-à-dire faire en sorte que tous les champs de savoir puissent dialoguer entre eux, ce qui nous aurait permis d'être beaucoup moins étriqués dans nos conditionnements. Et Edgar Morin aussi a été le chantre en francophonie de la pensée complexe, hein, ce qu'il appelle la pensée complexe, ce que les Américains appellent la pensée systémique. Alors la pensée complexe, qu'est-ce que ça a ? Si on devait énormément résumer ce qu'est la pensée complexe, eh bien imaginez, comme vous le voyez à l'écran maintenant, qu'une cause est un effet. Hein, bon, et d'ailleurs, ça, c'est ce que toute la démarche scientifique essaye de faire depuis des siècles maintenant, c'est d'essayer de trouver des liens de cause à effet, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qui cause tel effet qui est observable. Bien, et donc, la démarche scientifique, la plupart du temps, va se contenter d'essayer d'agir sur la cause pour faire en sorte que cette cause ne produise plus l'effet. Hein, c'est un peu comme l'ORL que j'ai consulté pendant des années, qui voyait un effet qui était mes sinusites et qui essayait d'agir sur la cause qui avait provoqué la sinusite en essayant de cautériser mes sinus, en me faisant faire des inhalations, en me donnant des antibiotiques, etc. Donc, en fait, il essayait d'agir sur la cause. Bien. Dans la pensée systémique, en fait, ce qu'on reconnaît, c'est que très souvent, il existe des phénomènes où l'effet qui a été engendré par la cause va lui-même, à partir du moment où l'effet existe, va rétroagir sur la cause qui l'a créée. Et en rétroagissant sur la cause qui l'a créée, il peut avoir deux effets. Il peut avoir un effet de diminution de la cause, donc de la compensation de la cause et donc de l'annihilation de la cause qui l'a créée. Hein, c'est ce qu'on va appeler une rétroaction négative, ou l'effet peut avoir une rétroaction positive sur la cause, c'est-à-dire que l'effet va avoir comme conséquence d'amplifier la cause qui l'a créée. Et amplifiant la cause qu'il a créée, évidemment, l'effet va être plus important. L'effet étant plus important, il va avoir une rétroaction encore plus positive, etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la rétroaction positive. Alors, je vous donne quelques exemples très rapides pour que vous compreniez ce que c'est une rétroaction négative, une rétroaction positive. Premier exemple assez classique, c'est imaginez que vous avez un thermostat dans la pièce dans laquelle vous vivez, vous avez un peu froid, vous montez la température du thermostat. Qu'est-ce que le thermostat va faire ? Donc ça, c'est la cause. Eh bien, il va envoyer un message soit à la plainte électrique qui se trouve dans votre maison, enfin dans votre pièce, soit à la chaudière si vous avez un chauffage central, et va demander un apport de chaleur supplémentaire. Donc l'effet du thermostat, c'est une augmentation de l'apport de chaleur dans la pièce. L'effet de cet effet va être une élévation de la température, mais plus la température va augmenter, plus cette température va avoir une rétroaction sur le thermostat en lui disant « Hey, on est presque arrivé à la température que tu voulais, et puis on est arrivé à la température que tu désirais, donc tu peux arrêter de demander de la chaleur supplémentaire à la plainte électrique ou à la chaudière. » Et donc à ce moment-là, l'élévation de température, qui est l'effet finalement de la cause qui est le thermostat, va avoir comme conséquence de diminuer et puis de supprimer la cause qui a été à l'origine de l'augmentation de température. Est-ce que vous me suivez dans ce premier exemple ? On pourrait prendre un autre exemple assez simple qui est que votre corps est déshydraté, donc ça c'est la cause. Vous allez avoir une sensation de soif. Cette sensation de soif va avoir comme effet de vous faire boire pour supprimer la sensation de soif. À partir du moment où vous avez bu, eh bien, cette eau qui va rentrer dans votre corps va réhydrater votre corps. Réhydratant votre corps, il supprime la cause initiale qui a fait que vous avez eu soif et que vous avez eu envie de boire. D'accord ? Donc ça, c'est un effet systémique. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut penser la plupart des choses dans la réalité. C'est que la réalité, elle est complexe. C'est-à-dire, il y a en permanence des liens de cause à effet entre la cause et l'effet, mais des liens aussi entre l'effet et la cause qui l'a engendré, c'est-à-dire une rétroaction entre la cause qui l'a engendré. Je vous dirai pourquoi, après je vous parle évidemment de tout cela, parce que évidemment, et ça vous allez mieux le comprendre lorsque je vais vous donner des exemples dans le domaine des rétroactions positives. Alors, la rétroaction positive la plus spectaculaire, je dirais, c'est ce qu'on appelle en physique nucléaire les réactions en chaîne. Les réactions en chaîne, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une réaction qui consiste à envoyer de façon extrêmement rapide des protons ou des particules alpha sur des noyaux d'uranium, par exemple. Et la collision entre ces particules alpha ou ces neutrons va être telle qu'ils vont briser le noyau d'uranium. Brisant le noyau d'uranium, ça va donner lieu à deux nouveaux noyaux de masse plus petite. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de ces deux noyaux plus petits, eh bien, ça va aussi créer des nouveaux neutrons qui vont être libérés, mais ça va aussi libérer des nouvelles particules alpha. Ces particules alpha qui elles-mêmes vont impacter d'autres noyaux d'uranium qui eux-mêmes vont se briser, créant et produisant de nouvelles particules alpha qui vont elles-mêmes briser d'autres noyaux, etc. Et c'est ce qu'on appelle la réaction en chaîne. Donc la réaction en chaîne, c'est qu'on part d'une particule alpha, mais partant d'une particule alpha, on va créer 4 particules alpha, puis 16 particules alpha, puis 64 particules alpha qui vont briser respectivement 4 noyaux, 16 noyaux, 64 noyaux, puis 256 noyaux, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que l'effet qui a été provoqué par la cause va engendrer une cause plus importante, qui va engendrer un effet plus important, qui va engendrer un effet plus important, etc. etc. En fait, si je tiens ma main comme ça, c'est pour empêcher que vous entendiez trop de vent, parce que sinon, vous n'entendriez plus rien, vous entendriez surtout le souffle du vent. Bien. D'autres exemples de réactions positives, par exemple ce que j'appelle dans la dynamique relationnelle systémique, qui est la démarche de communication que j'ai conçue avec ma première femme Alain Outhyrand, ce sont les jeux de pouvoir relationnels. En fait, dans un jeu de pouvoir, vous avez une personne A qui va faire pression sur une personne B, et cette personne B va réagir en résistant à la pression, donc à la tentative de jeu de pouvoir de A. Et en résistant à la tentative de jeu de pouvoir de A, elle ne va faire qu'amplifier l'envie de A de faire pression sur B, B étant encore plus en résistance, et donc en étant plus en résistance, on va être encore plus dans une volonté de pouvoir de la part de A, qui va être encore encouragée davantage à faire pression sur B. Donc vous voyez que là, on est de nouveau dans une boucle systémique, on est de nouveau dans une réaction positive, dans une rétroaction positive. Troisième exemple, lorsque l'OMS donc l'Organisation Mondiale de la Santé, a essayé de faire son opération de marketing complètement ratée à propos de la grippe H1N1 dans l'automne 2009, et que l'OMS a essayé de nous effrayer en disant qu'on allait vivre une pire période que la grippe espagnole de 1918-1919, eh bien, en fait, les gens se sont méfiés parce que le discours de peur était beaucoup trop exagéré par rapport à la réalité de ce que les gens voyaient autour d'eux, où ils se rendaient compte que pratiquement personne n'était malade de la grippe. Et je vous rappelle qu'en 2009, il y a eu beaucoup moins de morts de la grippe H1N1 qu'il n'y avait de morts dans la grippe saisonnière les années précédentes. Donc en fait, personne ne voyait quelqu'un grippé, mais l'OMS était en train de nous dire « tout le monde va mourir, il va y avoir des centaines de millions de morts, il faut absolument que vous vous vacciniez ». Donc ça, la cause, c'était le discours alarmiste de l'OMS, qui a eu comme conséquence d'augmenter la méfiance et la défiance des personnes à qui ce discours de peur s'adressait. Du coup, La réaction, c'est que les gens ont eu de moins en moins confiance dans la vaccination, et ça on le voit depuis 2009, il y a de plus en plus de personnes qui se posent des questions sur l'innocuité de la vaccination, mais aussi sur l'efficacité de la vaccination, ce qui fait que l'OMS est obligée de mentir de plus en plus, est obligée de dissimuler de plus en plus, est obligée d'acheter de plus en plus, je dirais, la parole de certains scientifiques ou de certains ministres de la Santé, avec comme conséquence que les gens se méfient de plus en plus parce que les gens découvrent de plus en plus les mensonges autour de la vaccination. Donc vous voyez que finalement, là aussi, on est dans une rétroaction positive. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? C'est parce que lorsqu'on nous présente certaines problématiques mondiales comme le réchauffement climatique, comme la crise économique et comme d'autres choses, eh bien en fait, la problématique, c'est que quand on est dans un système complexe, quand on est dans un système où il n'y a pas seulement une cause et un effet, mais où il y a de multiples causes et de multiples effets qui ont tous des rétroactions les uns sur les autres, donc il n'y a pas seulement un effet qui va avoir une rétroaction sur une seule cause, mais l'effet peut avoir des rétroactions sur plusieurs causes, même les causes qui ne l'ont pas créé au départ, qui vont donc engendrer d'autres effets qui vont s'amplifier avec des boucles de rétroaction positives ou des boucles de rétroaction négatives. C'est-à-dire que, et ça c'est prouvé déjà en physique élémentaire, c'est que quand on se trouve dans un système trop complexe, eh bien il est strictement impossible de prédire l'évolution du système complexe qu'on est en train d'essayer d'étudier. Et ça, c'est déjà vrai, vous voyez par exemple, quand on attache deux pendules l'un en dessous de l'autre, eh bien il est impossible de prédire quelle sera la résultante du mouvement de ces deux pendules attachées l'un à l'autre comme vous le voyez à l'écran actuellement. Donc imaginez maintenant que des scientifiques essayent de nous prédire ce qui va se passer avec le réchauffement climatique ou les changements climatiques. Mais en fait, d'un point de vue scientifique, c'est strictement impossible de prédire que dans 50 ans, il y aura une augmentation de 2 ou de 4 ou de 6 degrés. C'est strictement impossible de vous dire que d'ici 2200, on aura une augmentation du niveau des mers de 6 mètres. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, dans la nature, les phénomènes atmosphériques, les phénomènes d'évaporation de l'eau, les phénomènes d'évaporation et de libération du CO2 dans l'atmosphère sont totalement inclus et impliqués dans des systèmes extrêmement complexes et totalement impossibles à modéliser avec des équations simples. Et ça, vous pouvez interroger n'importe quel scientifique, il vous confirmera qu'il est impossible de traduire en équation des systèmes complexes. On ne peut traduire en équation que des systèmes simples. Et donc, concernant le CO2, admettons que le CO2 soit le responsable du réchauffement climatique, ce qui est non seulement non prouvé, mais ce qui apparaît de plus en plus au vu des révélations qui se font ces derniers temps comme un mensonge totalement éhonté au service des gens qui sont en train d'essayer de promouvoir le nucléaire. Alors là, désolé, j'ai fait un contresens complet. J'ai dit que les pro-nucléaires surfaient sur la vague du climato-sceptisme, alors qu'en réalité, les pro-nucléaires surfent évidemment sur la vague de cette légende du CO2 comme responsable du réchauffement climatique. Donc désolé, mais j'ai complètement déconné à ce niveau-là, j'ai inversé mon raisonnement. Mais donc, pour revenir à ce que je disais, admettons même que le CO2 soit responsable du réchauffement climatique. Prenons ça comme hypothèse, même si je pense et je suis persuadé que cette hypothèse est complètement fausse et c'est plutôt le CO2 qui est l'effet du réchauffement climatique. C'est-à-dire que plus l'atmosphère se réchauffe, plus il va y avoir du CO2 qui va être libéré, entre autres par les océans, qui sont quand même la première source d'émission de CO2. Bien, mais admettons que ce soit les hommes, les méchants hommes, qui soient responsables du réchauffement climatique. Comment est-ce qu'on peut prédire que cette augmentation de CO2 ne va pas avoir pour effet, par exemple, de booster la croissance des végétaux? Parce que les végétaux sont extrêmement friands de carbone et de CO2. Et donc, finalement, en ayant une augmentation du CO2, on va peut-être avoir une augmentation de la croissance des végétaux sur la Terre. Ayant une augmentation des végétaux sur la Terre, eh bien, ces végétaux vont absorber majoritairement l'excès de CO2 et vont rééquilibrer les choses, c'est-à-dire que là, on serait en présence d'une rétroaction négative. Qu'est-ce qui nous dit aussi que, grâce à cela, il va y avoir une légère diminution de la température, et lorsqu'il y a une diminution de la température, ça on le sait aussi, les océans vont réabsorber le CO2 qui est en excès dans l'atmosphère pour le stocker à l'intérieur de l'eau des océans. Et donc finalement, on va avoir un effet cumulatif inverse qui donnera peut-être lieu, dans 20 ans, à un refroidissement de l'atmosphère. Refroidissement qui va de nouveau provoquer d'autres boucles systémiques avec d'autres cycles du carbone, d'autres cycles de l'eau, parce que je vous rappelle quand même que l'eau, la vapeur d'eau, est aussi un gaz à effet de serre. Et ça, on l'oublie, parce que l'eau est dans l'atmosphère dans une proportion de 1 à 5%, alors que le CO2 est en proportion dans l'atmosphère de 0,034%. Alors, je ne sais pas si vous voyez la différence, mais si vous faites un rapide calcul, ça veut dire qu'il y a 20 à 100 fois plus de vapeur d'eau, qui est également un gaz à effet de serre, qu'il n'y a de CO2. Et le CO2 est essentiellement émis par les animaux, enfin d'abord par les océans, par les végétaux, par les animaux, et puis un tout petit peu par les activités humaines. Donc comment est-ce qu'on peut croire que 0,0004% de différence de CO2 provoque les cataclysmes climatiques qu'on est en train d'observer depuis quelques années ? Bon, donc là, si vous voulez plus d'informations et si vous voulez plus de précision, eh bien, je vous invite à nouveau, si vous m'entendez sur ma chaîne YouTube ou sur Facebook, je vous invite donc à vous inscrire sur ma chaîne privée pour prendre connaissance du dossier que je consacre au changement climatique. Bien. Donc, vous vous rendez bien compte que... quand on nous parle de problèmes qui touchent la planète entière, on ne peut pas faire confiance dans des discours aussi simplistes qui présentent les choses de façon très linéaire. Le CO2 est augmentation à cause des hommes, eh bien, il y a une augmentation de la température, point. Ben non, c'est pas aussi simple que cela. Voyez, et je pourrais multiplier les exemples où il serait bon de se méfier effectivement des discours simplistes. Entre autres, quand on nous dit « c'est la crise économique, il faut relancer la croissance » et on va relancer la croissance en diminuant la pression fiscale sur les entreprises. Et en disant « comme ça, les entreprises auront plus de moyens d'engager du personnel et donc on va réduire le chômage ». En fait, on se rend compte qu'en faisant ça, la plupart du temps, les mesures favorables au niveau fiscal, au niveau des entreprises, va bénéficier aux actionnaires qui sont de plus en plus riches et va au contraire être préjudiciable aux salariés qui non seulement n'auront pas d'augmentation de salaire, qui ne vont pas être plus engagés, donc là je parle des chômeurs, mais en plus quand il y aura un déficit plus grand au niveau de l'État, à qui est-ce qu'on va demander de rembourser ou de compenser le déficit supplémentaire de l'État à cause des cadeaux fiscaux qui ont été faits aux entreprises ? Eh bien on va aller puiser à nouveau dans les poches des contribuables, c'est-à-dire dans les poches des salariés comme vous et moi, plutôt que d'aller chercher dans l'argent que les actionnaires placent dans des paradis fiscaux et qui, évidemment, ne reviennent jamais dans la richesse du pays. Donc, vous voyez que, de nouveau, quand on vous tient des discours hyper simplistes, qui est la théorie du ruissellement, par exemple, qui est de dire il suffit d'enrichir un peu plus les ultra-riches pour que cette richesse bénéficie aux plus pauvres, en fait, ce n'est pas vrai du tout. En fait, les ultra-riches vont faire des dépenses de plus en plus prestigieuses, mais qui ne vont absolument pas bénéficier aux gens qui sont, comme vous et moi, salariés, parce que moi je suis salarié de ma propre entreprise et je paye des impôts énormément, puisque moi je ne suis pas dans des paradis fiscaux. Ici je suis dans un paradis terrestre parce que je suis en train de me faire dorer au soleil, mais ça ce sont mes vacances annuelles. Je prends 15 jours de vacances annuelles et le reste de l'année je travaille entre 60 et 80 heures par semaine. Donc ceux qui voudraient critiquer le fait que je suis en train de vous faire une vidéo professionnelle pendant mes vacances, eh bien, réfléchissez à deux fois avant de faire ce genre de remarques. Bien, donc je pourrais aussi vous parler de la lutte contre le cancer qui dure depuis des dizaines et des dizaines d'années. Moi, quand j'étais petit, on nous promettait déjà que le cancer serait éradiqué avant l'an 2000. On est en 2020 et je me rends compte que non seulement rien n'a changé, que le taux de cancer a augmenté et que la qualité de vie des individus a fortement diminué. On observe même maintenant depuis quelques années que l'espérance de vie est en train de diminuer, alors que jusqu'à présent, et pendant 80 ans, je pense, l'espérance de vie n'avait fait qu'augmenter. Alors pourquoi ? Parce que plus on lutte contre le cancer à coups de chimiothérapie, de radiothérapie, etc., c'est-à-dire en affaiblissant le système immunitaire du corps humain, eh bien, on ne fait que détruire l'équilibre du corps humain, qui est un équilibre extrêmement complexe avec énormément de boucles de rétroaction. Et vous comprenez bien que on ne peut pas résoudre le problème du cancer en agissant sur une cause et en espérant que l'effet va disparaître de lui-même. En fait, les choses sont beaucoup beaucoup plus complexes et j'aurai l'occasion d'en parler dans d'autres dossiers dans ma chaîne gratuite. Donc là, j'espère que vraiment vous allez me rejoindre sur cette chaîne. Nous avons déjà plus de 16 000 personnes qui sont régulièrement actives sur cette chaîne privée et j'espère vraiment qu'il y aura d'autres personnes parmi vous qui me rejoindront pour examiner ces dossiers approfondis que je vous offre au sein de cette chaîne. Bien, voilà. Donc, voilà, j'ai été un peu long, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre que vous ne pouvez pas vous contenter de discours linéaires, vous ne pouvez pas vous contenter de solutions simplistes qui vous dit il y a A à engendrer B et il suffit de supprimer A ou il suffit d'agir sur B pour que les problèmes soient résolus. En fait, les choses sont beaucoup plus complexes et en plus, les choses ne sont jamais prédictibles à l'avance lorsqu'on est face à un système complexe. Alors, avant de terminer cette vidéo, je voudrais encore rendre un rapide hommage à deux autres personnes, mais je serai beaucoup, beaucoup moins long. Je voudrais rendre hommage à Karl Popper. Karl Popper, c'est un épistémologue des sciences. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est un épistémologue, c'est quelqu'un qui a une pensée critique par rapport au fonctionnement des sciences. Donc, le fonctionnement des sciences, il y a des gens qui réfléchissent sur la manière dont les scientifiques réfléchissent, dont les scientifiques travaillent. Donc, en fait, tout ce que je viens de faire de ces 20 dernières minutes de vidéo, c'est faire un travail d'épistémologie, c'est-à-dire c'est faire un travail de critique de la pensée scientifique et de dire « mais il y a un truc qui ne fonctionne pas dans la manière de penser le réel ». Vous voyez ? Et Karl Popper disait deux choses que je trouve très intéressantes et que vous pourriez retenir aussi. Il disait d'abord que la science aujourd'hui souffre d'un nouveau prolétariat, c'est le prolétariat des chercheurs scientifiques. C'est quoi le prolétariat ? C'est un peu les temps modernes de Charlot, hein, une nouvelle fois. C'est de mettre la science dans des silos tellement étroits que chaque chercheur ne va s'intéresser que à l'étroitesse du champ de savoir qu'il est supposé comprendre et analyser. Mais le chercheur n'a aucune idée de ce que son voisin ou de ce que ses voisins sont en train de faire au niveau scientifique. C'est-à-dire que finalement, on est dans une espèce de chaîne de montage où chacun sert un boulon différent, mais aucun scientifique n'a une vision globale de ce à quoi ils sont en train de contribuer. Et c'est comme ça que je vous disais dans une de mes premières conversations du lundi que tout à coup j'ai découvert brutalement que j'étais en train de travailler pour l'armée américaine et pour la mise au point des systèmes de guidage des missiles intercontinentaux, alors que j'étais non seulement objecteur de conscience, pacifiste, antinucléaire et antimissile, mais 40 heures par semaine, j'étais en train de travailler pour l'armée américaine sans le savoir, parce que tout simplement, j'étais moi aussi soumis au prolétariat de la science. Donc vous comprenez bien que lorsque j'ai rencontré Edgar Morin, qui parlait de transdisciplinarité, de faire dialoguer les différents champs de savoir possibles, eh bien, vous pensez bien que j'ai donné ma démission à ce moment-là. Je ne reviens pas sur cet épisode de ma vie. L'autre chose que Karl Popper disait, qui était très intéressant, il disait « Les scientifiques devraient ne jamais oublier de faire commencer toutes leurs lois scientifiques par la phrase « Tout se passe comme si » et puis terminer leur phrase par « Jusqu'à preuve du contraire ». Donc, on pourrait prendre la célèbre équation d'Einstein qui disait « E égale mc carré ». Eh bien, en fait, si vraiment on voulait être prudent et se dire qu'il faut continuer de douter de tout, puisque finalement, c'est à ça que ça revient, eh bien, il faudrait énoncer toutes les lois scientifiques et la loi d'Einstein comme « Tout se passe comme si E égale mc carré jusqu'à preuve du contraire ». Voyez ? Et ça, si les scientifiques commençaient à faire cela, si les médecins commençaient à faire ça, si les biologistes commençaient à faire ça, si les économistes commençaient à faire ça, si les gens qui font des recherches sur le transhumanisme, etc., si tous ces gens-là acceptaient d'avoir l'humilité de dire « tout se passe comme si F égale MA, jusqu'à preuve du contraire, tout se passe comme si on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière », jusqu'à preuve du contraire, tout se passe comme si les phénomènes télépathiques n'existent pas jusqu'à preuve du contraire, etc., et ben je pense qu'on avancerait beaucoup plus vite et nous serions beaucoup moins conditionnés, nous, les êtres humains, parce que nous serions, je dirais, abreuvés de discours qui seraient beaucoup plus nuancés, beaucoup plus respectueux de la nature, de la réalité. Donc, merci à Karl Popper d'avoir apporté cette contribution majeure au travail de Descartes, puisque finalement, tout se passe comme si, jusqu'à preuve du contraire, finalement, c'est la démarche que Descartes proposait au XVIIe siècle. Dernier hommage que je voudrais rendre, c'est un hommage au philosophe Friedrich Nietzsche. Et Nietzsche disait « Ce n'est pas le doute qui rend fou, mais c'est la certitude. » Et je trouve ça aussi extrêmement pertinent de dire que finalement, alors peut-être que ce n'est pas fou qu'il faudrait dire, il faudrait dire que les certitudes nous rendent de plus en plus psychorigides, mais nous rendent de plus en plus enfermés aussi dans nos croyances et nous rendent de plus en plus étriqués dans les possibilités d'espace et d'ouverture d'espace auxquelles nous pourrions prétendre en tant qu'être humain. Parce que je continue à penser que nous, les êtres humains, nous sommes faits pour vivre la vie en plénitude. Nous sommes faits pour vivre dans l'abondance d'amour, de respect, de bien-être. Je ne parle pas d'abondance matérielle. Ça, c'est une illusion complète de croire que la Terre serait capable de fournir la même abondance à tous les êtres humains et d'avoir comme standard de référence le mode de vie des Américains. Non, franchement pas. Mais nous pouvons prétendre que nous pouvons vivre l'harmonie, la paix, la sérénité, la beauté en abondance. Mais pour pouvoir faire cela, il faut que nous quittions nos certitudes à tout jamais. Pour terminer, j'aimerais vous donner 5 conseils. 5 conseils très rapides. Premier conseil, qui découle de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, méfiez-vous des logiques linéaires quand on vous parle de systèmes complexes. Hein, je pense que là, j'ai été assez clair. Toute personne qui va vous apporter des solutions simplistes et linéaires en disant « il suffit de faire ça pour avoir tel effet », eh bien, méfiez-vous parce que la réalité humaine, la réalité matérielle n'est jamais une réalité simplifiée. Deuxième conseil que je pourrais vous donner, méfiez-vous donc de toutes les solutions qui se présentent comme une façon de lutter contre un symptôme dont on veut se débarrasser. Donc on veut lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, ça risque d'augmenter les émissions de gaz à effet de serre, aussi curieux que ça puisse paraître. Méfiez-vous des solutions qui veulent lutter contre le cancer, parce que ça risque d'augmenter l'incidence des cancers. Méfiez-vous des solutions qui veulent lutter contre le chômage, parce que toutes les solutions qui ont lutté jusqu'à présent contre le chômage n'ont fait qu'augmenter le chômage et n'ont fait que diminuer la richesse des classes moyennes et des classes plus pauvres. Donc, méfiez-vous des solutions qui se présentent comme des solutions pour lutter contre. Vous devriez systématiquement allumer une sirène d'alarme dans votre tête en disant « Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire ?» à cause des phénomènes de rétroaction positive et de rétroaction négative. Troisième conseil que je voudrais vous donner, c'est méfiez-vous aussi des affirmations définitives. Quand on vous dit « Au niveau de la vaccination, il n'y a plus de débat », ben, rien que cette phrase-là devrait vous mettre la puce à l'oreille que les partisans de la vaccination, justement, ne veulent pas qu'on découvre les mensonges de plus en plus grands qu'ils sont obligés de faire pour convaincre une partie de la population qui est de plus en plus méfiante. Donc, on vous dit « il n'y a pas de débat, il n'y a plus de débat à avoir, la question est close », eh bien, vous devriez commencer à vous méfier, si vous ne voulez pas être conditionné. Si on vous dit « toute la communauté scientifique est d'accord », ben, vous devriez aussi vous méfier de ce genre de phrases et commencer à faire vos recherches vous-même, et ça c'est ce que nous verrons dans la troisième vidéo consacrée aux doutes systématiques, et de regarder si c'est vraiment vrai que toute la communauté scientifique est d'accord. Vous voyez, au niveau du sida auquel j'ai consacré un dossier complet dans ma chaîne privée, ben, il y a un nombre important de scientifiques spécialisés dans ce domaine qui ne partagent pas du tout la thèse officielle du sida. SIDA-VIH. Au niveau du climat, il y a des centaines de scientifiques qui ont quitté le GIEC ou qui n'y sont jamais rentrés parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les conclusions du GIEC. Au niveau du cancer, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dire « on fait fausse route dans la lutte contre le cancer depuis 60 ans ». Donc quand on dit « toute la communauté scientifique est d'accord », vous devriez vous méfier systématiquement. D'accord ? Quand on vous dit la science a prouvé que, oui, mais quelle science? Quelle partie de la science? Est-ce que toutes les conclusions scientifiques ont toujours été dans le même sens? Vous comprenez ce que je veux dire? Bien. Donc, si vous acceptez ce genre de discours, vous acceptez d'être complice de ce que j'appelle le totalitarisme de la pensée unique. Et c'est ça qui est en train de se passer dans le monde. C'est qu'on est en train d'essayer de nous imposer une pensée unique. On est en train de supprimer la biodiversité au niveau de la pensée. Or, nous devrions tous nous battre bec et ongles pour respecter la biodiversité sur le plan de la pensée comme sur le plan de la nature. Quatrième conseil que je voudrais vous donner, c'est méfiez-vous de ceux qui s'attaquent aux messagers plutôt que de s'attaquer à leur message. Vous voyez, quand on dit « ouais, mais celui-là, c'est un théoricien du complot », la plupart du temps, c'est parce que ceux qui sont en face n'ont pas de réponse articulée et fondée pour démolir les arguments de ceux qui démolissent les thèses officielles. Et donc, c'est très facile de dire à ce moment-là « ouais, mais lui, c'est une secte ». Oui, oui, mais lui ou elle, c'est une prostituée. Oui, mais lui, il est en contact avec les milieux mafieux. Oui, mais lui, c'est un complotiste ou un conspirationniste. Oui, mais lui, etc. Mais attendez, est-ce qu'on pourrait s'intéresser deux minutes aux arguments que cette personne a développés plutôt que de regarder ce que cette personne a comme relation supposée avec certains milieux douteux ? Voyez ? Donc ça aussi, ça devrait, si vous voulez vraiment faire une œuvre de déconditionnement et de douter de tout, vous devriez commencer à remettre en question systématiquement ce genre d'argument très facile et très simpliste de la part de gens qui n'ont pas d'argument à répondre à ceux qui leur disent « mais regardez toutes les contradictions qui se trouvent dans vos théories ». Et dernier conseil que je voudrais vous donner pour aujourd'hui, c'est informez-vous à des sources indépendantes et vraiment libres. Et ça, c'est ce que je vous inviterai à faire la fois prochaine, donc lundi prochain, où je vous retrouverai à nouveau encore sur la plage de Guadeloupe, bien que je serai déjà rentré depuis un certain temps au Québec. Mais en tout cas, j'avais envie de continuer à m'entretenir avec vous pour que vous puissiez bénéficier justement de l'horizon large que nous offrent les mers pour nous inspirer sur le fait qu'il est vraiment temps que nous sortions tous et toutes de nos bocaux individuels. À très bientôt et à lundi prochain. Thank you.